Et salut à toute l'équipe Paris Central, suite au live match effectué par Knicks et Kev, pour ceux qui ont pu justement le suivre. On se retrouve pour l'habituel débrief du match depuis maintenant 2 ans. Ouais, ça commence un peu à faire. Et justement, après une période un peu faste avec la Ligue des Champions, les trêves internationales, le Paris Saint-Germain se rendait un dimanche à 13h à Brest, un match qui sent bon la Ligue 1. Et justement, on va y revenir, et déjà on accueille Recoba et Soura. Comment vous allez les gars pour commencer?
Ça va,
Impeccable.
très bien.
Alors justement, pour parler un peu de ce match, avant qu'on aborde les grands titres qu'on avait abordés pour ce match, justement, j'allais vous demander un peu vos avis à tous ceux qui sont dans le live chat et justement aux personnes aussi présentes avec moi sur ce plateau. Je vais commencer par Rekoba. Avant qu'on entame les titres, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Quelles sont les choses qui t'ont marqué dans ce match?
De base, on l'avait dit, hein, ça n'allait pas être un match facile à Brest, 13h, un stade qui est bouillant, on a pu le voir, hein, avec Mbappé qui s'est pas mal frité avec eux. Même au niveau de l'engagement, on savait que Brest allait mettre beaucoup d'engagement, on a vu des gros tacles, on a bien répondu présent quand même. Mais voilà, on savait que ça allait être un match compliqué, en plus on est post-Ligue des Champions. Aujourd'hui, je pense que tout ce qui nous intéressait, c'était les 3 points. Au final, on les a eus, difficilement certes. On ne s'est pas rendu le match facile non plus, mais en face, il y a eu une belle équipe, il y a eu un grand gardien. Il y a eu, je dirais, deux mi-temps complètement différentes aussi, où en première, on doit largement mener 3-4-0. Maintenant, je ne dirais pas qu'on a fait les choses d'une mauvaise manière, parce qu'au final, on a eu quand même les occasions en première. Il y a eu un grand gardien aussi, il faut le noter. Donc, c'est surtout défensivement où je trouve qu'on s'est rendu le match compliqué. De toute façon, on va en reparler de la charnière. Mais c'est surtout là où on a pêché, parce qu'au final, on prend ce but avant la mi-temps et on se rend du coup le match compliqué, parce que ça relance Brest, ça relance le public, ça relance l'ambiance. Donc au vestiaire, forcément, ils se galvanisent et puis derrière, ils reviennent, ils marquent. Donc on prend 2 buts dans des temps qui sont ultra importants, on le sait, juste avant la mi-temps, juste après le retour des vestiaires. Donc forcément, on s'est rendu le match compliqué, mais c'est surtout défensivement où on se l'est rendu compliqué, avec une charnière qui a été un peu défaillante, peut-être Donnarumma qui aurait pu faire un peu mieux. C'est dommage parce qu'au milieu, on a tenu la baraque. Offensivement, on a été bon. Et puis après, derrière, c'est là où moi, je vais voir plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est qu'au final, un match comme aujourd'hui, tu dois le gagner au mental. Tu dois avoir un vrai état d'esprit pour pouvoir ressortir avec 3 points d'un match comme ça. Et on a su le faire. On a su le gagner dans les dernières minutes grâce à un penalty, grâce à du mental aussi. Donc, je suis content au final, même si c'est un match compliqué. On le savait tous que ça allait être compliqué. On savait tous qu'on n'allait pas voir le Barça de Guardiola. Mais au final, on arrive à prendre 3 points et c'est le plus important, je trouve.
Soit.
Bah, comme on dit souvent, le plus important, c'est les 3 points. Là, on a réussi à aller accrocher un résultat positif face à Brest et en plus à Francis Leblay à l'extérieur, qui est un déplacement assez difficile pour bon nombre d'écuries françaises. La première mi-temps, ouais, elle a été bien gérée pour le Paris Saint-Germain, si on enlève la fin de la première mi-temps. Et ça, c'est un reproche que je fais depuis des années par rapport au PSG, c'est de ne pas réussir à savoir gérer un score et d'être à chaque fois de se faire revenir en égalisant ou en prenant un but en toute fin de match. Et ça montre un petit peu le manque de concentration de la part des joueurs assez souvent. Donc pour le coup, je retiens la victoire. Beaucoup de nervosité dans ce match-là, notamment sur la fin du match, que ce soit avec les supporters ou avec les joueurs. Donc là aussi, il y avait pas mal de choses à redire. Et la défense, on va y revenir, mais il y a des questions quand même à se poser.
J'aime bien le commentaire d'Alexandre, le terrain était lourd avec la pluie, les sangliers avaient mal mangé aussi pour ceux qui ont la référence. Bon, pour moi, pour ce qui m'a un peu marqué dans ce match, pour aller très très vite, j'ai revu des choses que j'ai pas aimées de ce PSG, c'est-à-dire qui m'a un peu rappelé le PSG de Galtier l'an dernier, dans le sens où l'an dernier on aimait bien se moquer du Paris Saint-Germain en appelant le Galtier Time, le fameux temps où on prenait un but entre la 45e et la 60e, chose qui est arrivée aujourd'hui. Une défense qui était très 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 limité techniquement en les personnes de Danilo et Skriniar. Et ça me permet justement de lancer la première question de ce live, et ce sera Soura et Recoba qui y répondront. Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis dans le chat vis-à-vis de cette thématique aussi. Je me demandais justement, est-ce que la charnière Danilo Skriniar, elle est Luis Enrique compatible? Et là, je pose la question parce que je pense qu'elle mérite de se poser. Et je vais commencer cette fois par Soura et Recoba en enchaînera ensuite.
Non, elle est pas du tout compatible quand tu repenses aux défenses qu'avait Luis Enrique, notamment en Espagne, où il avait Aymeric Laporte, notamment dans sa charnière centrale, où lui, à la relance, c'était un défenseur qui avait des qualités techniques au-dessus de la moyenne. On peut aller aussi un peu plus loin avec le FC Barcelone, où tu pouvais avoir des joueurs comme Samuel Umtiti. Donc là aussi, c'est pas compatible en fait. Et surtout, c'est surtout que la charnière, elle est lente. Elle est très très lente pour gérer la profondeur. tu te fais aspirer, t'es pas assez bon. Et pour le coup, une autre chose aussi qui est un peu importante et qui est un gros problème au PSG, c'est que tu n'as pas de jeu aérien, c'est faible. En fait, tu te fais dominer sur chaque centre, coup franc, corner. Et là aussi, c'est un gros problème pour la défense centrale du PSG avec Danilo et Skriniar. Et c'est surtout que Skriniar, pour un joueur qui avait été tant préféré par Luis Campos, bah, c'est pas forcément folichon cette saison.
Bah, j'ai donné la parole cette fois à Lolo qui vient d'arriver. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette question? Est-ce que pour toi la charnière Skriniar Danilo, elle est Luis Enrique compatible?
Déjà, salut tout le monde. Non, jamais. Je ne veux plus jamais qu'il refasse cette expérience-là. C'est trop lent. Techniquement, c'est dur. Skriniar avec le ballon en ressortie de balle et avec la responsabilité de pouvoir relancer de derrière, c'est très compliqué. C'est pas beau à voir. J'étais même à me dire, à tweeter pendant le match en me disant, j'espère que Kimpembe il va revenir très rapidement. Parce que là, de ce qu'on voyait, franchement, c'était au niveau relance, c'était dur. Et pourtant, le pressing de Brest, c'était pas un truc de fou. C'était Mounier en face, et Del Castillo, ce genre de joueur. Donc franchement, non, non. Et si il y a un truc au moins qu'il faudrait qu'il fasse, je sais pas si même il peut se dire de mettre Mukiele dans l'axe. De moi, ce que je voulais au début, c'était de mettre aussi, pourquoi pas, Hernandez dans l'axe et de décaler Mukiele, de mettre Hakimi sur le côté gauche, par exemple. Mais d'oublier vraiment Danilo Skriniar, ces deux profils qui sont pour moi incompatibles et en soi, qui en termes de défense centrale, si tu veux, ne prendre des vagues et essayer d'être le plus costaud, solide, oui, il n'y a pas de souci, mais quand tu te veux relancer et avoir un jeu attrayant, c'est pas franchement.
Rico.
Ouais, bien sûr que c'est incompatible, c'est deux mêmes profils quasiment, c'est deux tracteurs, et quand on connaît le jeu de Luis Enrique, tu joues assez haut. Pour Skriniar, ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait vu à l'Inter, et forcément ça ne correspond pas forcément à ses qualités. On l'avait signé libre aussi avant que Luis Enrique arrive, donc on peut se dire que peut-être ce n'était pas un choix de sa part, mais en tout cas oui, c'est incompatible. On partait tous avec une charnière Lucas Hernandez-Marquinhos, et quand tu regardes les qualités des deux, et que tu regardes les qualités de Danilo et Skriniar, ça n'a rien à voir. Donc évidemment que c'est incompatible. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, on va dire, même si pour moi, je suis assez d'accord avec Lolo et j'en ai déjà parlé. Je ne comprends pas pourquoi Mukiele ne joue pas en défense centrale. C'est quelqu'un de très rapide qui gagne ses duels. Il a déjà joué. C'était avec toi. L'année dernière, il a déjà joué à ce poste-là et il a été très bon. Donc après, tu peux toujours le mettre à gauche et réaxer Lucas, comme l'a dit Lolo. Donc ouais, il y a peu de solutions, certes, mais il y en a quand même une ou deux. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'entête à continuer avec cette charnière, surtout qu'il l'a déjà mis plusieurs fois et que plusieurs fois, on est ressorti déjà avec ce genre de problème. Si nous, on le voit tous, je ne comprends pas pourquoi lui ne le voit pas. Donc, à un moment donné, il faut que ça change. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en plus de ça, ils sont censés s'imposer dans le domaine aérien, puisque ça fait partie quand même de leur qualité. On parle de leurs défauts, mais ils ont des qualités. Et en plus de ça, ils se font prendre sur leurs qualités. Donc, à un moment donné, ils sont vraiment défaillants. Et pour le coup, il va falloir vite changer ça, parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça, même face à Brest, même en Ligue 1, face à des petites équipes, entre guillemets. Ça ne suffit pas. Donc, à un moment donné, il faut des changements.
Justement, je vais me permettre de répondre au commentaire de Only Mad Bones, qui est quand même assez intéressant, qui disait: pour moi, il faut mettre Hakimi à gauche, Mukiele à droite et remettre Hernandez défenseur central. Tu peux aussi mettre Mukiele dans l'axe. L'avantage, c'est qu'on a quand même recruté pas mal de joueurs polyvalents ces derniers temps, et il faudrait quand même s'en servir. Mais le retour de blessure de Mukiele, parce qu'il faut le rappeler, il a une longue blessure, force peut-être Luis Enrique à la prudence de la même manière qu'il a fait avec Kimpembe et avec Nuno Mendes aussi. Donc je préfère à la limite que le joueur mette un peu plus de temps à venir, que tu prennes bien ton temps, qu'il reprenne son rythme et son temps, et qu'il évite le risque de blessure, parce que si Mukiele repart sur blessure, tu auras l'air futé, plutôt que comme on a fait ces précédentes saisons avec, j'ai cité 2-3 joueurs et vous comprendrez vite la problématique qu'on a eu au PSG à ce niveau-là, les Verratti, Neymar, Nuno Mendes, des joueurs que tellement indispensables qu'on fait revenir plutôt que ce qu'ils devraient revenir. Et du coup, bah, surcharge et rechute. Moi, je suis pour éviter ça, et je préfère à la limite qu'on prenne un peu plus de temps avec un mec comme Mukiele, Nuno Mendes et Kimpembe qui reviennent de blessure, plutôt qu'on les fasse revenir trop vite dans le bain et que on se retrouve à nouveau dans cette problématique de le staff médical du PSG est-il compétent? On enchaîne les blessures, c'est anormal. Prenons notre temps. On a gagné le match, c'est le principal, même si ça n'a pas été facile. Là, on a plusieurs jours pour souffler. Le prochain match est vendredi contre Montpellier. Donc je pense qu'aussi il y a eu un enchaînement des matchs et tu sais que tu as quand même beaucoup de joueurs avec un gros potentiel de blessure dans cette équipe, notamment Lucas Hernandez, notamment Dembélé. Si tu les ajoutes tous et que tu commences à faire de la surcharge, tu vas enchaîner les blessures. Mais je vous propose du coup qu'on passe au sujet suivant. Et je pense qu'il était un petit peu dans la thématique de ce qu'on a déjà abordé, mais dans la continuité aussi. Justement, quand on voit bah, certains joueurs qui ont été absents et qui ont manqué de par leur profil au Paris Saint-Germain, je pense à Marquinhos et Ugarte, est-ce qu'on n'a pas encore des manques en termes de remplaçants actuellement au Paris Saint-Germain? Et cette fois, je vais faire l'ordre Lolo, Recoba et Soura pour inverser.
En vrai, le truc, c'est que je te dirais oui parce que ça a tenu, en fait, tu as vu beaucoup de manquements, mais je te dirais non parce que au final, on fait un match qu'il faut gagner. Je pense que l'année dernière, tu rejoues ce match, je pense que tu le perds ou tu fais match nul bêtement. Moi, j'ai bien aimé déjà le jeu qui a été surtout produit en première mi-temps, peut-être jusqu'au début de la première mi-temps, enfin, jusqu'au début de la deuxième mi-temps, pardon. J'ai beaucoup aimé le fait que Ruiz avait l'opportunité de pouvoir conduire le jeu. Je l'ai trouvé bon techniquement, surtout en première. Après, ça a été une grosse faillite, je pense, défensive en deuxième mi-temps parce que tu recules bêtement, que le premier but que tu prends juste avant la mi-temps, en fait, il te met le doute aussi parce que tu n'as pas le droit de le prendre. Donc, tu prends, comme a dit Rico, sur tes qualités, un duel aérien que tu es censé gagner avec Danilo qui est pour moi pas au marquage. Il n'y a pas forcément eu de manquement, je pense, individuel à part défensif. Je parle vraiment que ça a été une défaillance collective où tu recules un peu plus, où un Warren qu'on voyait omniprésent et qui harcelait le porteur du ballon, qui était bon techniquement en première mi-temps, bah, tu vois qu'il était plus à défendre qu'autre chose, que devant aussi, ça défendait un peu moins. Donc, du coup, tout ça fait une escalade. Et au final, tu faisais un match qui était correct face à une équipe qui était largement à ta portée parce que pour moi, tu dois mettre le 3-0 avant la mi-temps, tu dois être rassuré, tu dois revenir à la mi-temps tranquille, sans problème, et au final, tu te mets en difficulté. Donc, moi, je pense que c'est vraiment plus une faillite collective plutôt qu'une faillite individuelle. J'ai bien aimé Kanginli à la place de Vitinha, j'ai beaucoup aimé Barcola, même s'il a commencé de façon un petit peu plus timide avec des pertes de balles. J'ai bien aimé Fabian Ruiz. Moi, comme je l'ai dit, et je l'ai tweeté un moment, mais ce qu'on a vu de Kanginli en première mi-temps, c'est ce qu'on demande à Vitinha quand il doit jouer en première intention, quand il ouvre son ballon avec cet extérieur du pied gauche. C'est ça, en fait, qu'on voulait voir. Et franchement, c'est plus une faillite collective en deuxième mi-temps pour moi.
Rico?
Ouais, je suis d'accord, on en a déjà parlé. Oui, il y a des manques dans cet effectif. Voilà, on le voit, on remplace Ugarte par Ruiz qui n'est pas un 6. On doit bricoler. Tu sais que si tu n'as pas Zaïre Emery, il fait encore 90 minutes ce soir, enfin ce midi. Tu sais que si tu ne l'as pas, bah, tu n'as personne derrière avec son profil. Donc, évidemment qu'il y en a. Tu dois bricoler aussi ta charnière avec deux tracteurs, alors que je pense que ce n'est pas forcément la volonté de Luis Enrique, on ne va pas se mentir. Donc oui, il y en a, mais quand on regarde la première mi-temps surtout. On a complètement maîtrisé ce match et quand tu regardes le score à la 55e quand il y a 2-2, bah finalement Brest a eu quoi? Deux occasions de but ou peut-être 3-4 occasions, grand maximum. Au final, ce match, tu devais déjà le plier et mener 3-4-0 et on ne parlerait pas comme ça du match et des joueurs aujourd'hui. Donc au final, c'est vraiment, comme l'a dit Lolo, c'est plus pour moi une défaillance défensive, je dirais, plus que collective, mais plus défensive, où je dirais que certains joueurs n'ont pas tenu leur rang et ont été assez défaillants. On parle de Skriniar, Danilo, mais c'est vrai qu'il y a Lucas Hernandez aussi, qui enchaîne les matchs mine de rien aussi. Donc en Ligue 1, je le trouve un peu plus dans la gestion. Et malheureusement, face à des mecs gonflés à bloc chez eux, bah, quand tu es dans la gestion, des fois, ça ne suffit pas aussi bon que tu sois. Et je pense que c'est plus la défense qui a pêché et qui, au final, on va dire, a plombé un peu le match, puisque derrière, Brest revient, Brest pousse, Brest marque le deuxième, et puis derrière, ça change tout le match. Derrière, tu recules aussi, tu joues différemment, ça met le doute. Donc, ouais, pour moi, c'est plus défensivement où je pense que certains ont failli et ça a un peu mis l'équipe en galère. Mais après, oui, il y a des manques dans l'effectif, ça, dans tous les cas, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui, ouais, pour moi, c'est plus la défense qui a gâché un peu le match.
Soura?
Après, bah, par rapport à l'effectif, je pense que le Paris Saint-Germain a déjà fait un très gros travail pour restructurer son 11. Tu as perdu Messi, tu as perdu Neymar, tu as perdu Verratti. Tu peux pas construire 11 joueurs qu'on peut avoir quand on a vu, par exemple, face à l'AC Milan et derrière construire le 11 de Manchester City en un seul mercato estival. Ça prend du temps, il faut faire les choix qui s'imposent. Certes, la transition, comme l'ont dit beaucoup, n'a peut-être pas bien été amenée pour certains. Mais on peut pas, on n'est pas sur Football Manager ou FIFA 24. On doit prendre en compte les besoins du club. On avait besoin d'un 6, on l'a fait. On avait besoin d'étoffer le banc en attaque, on l'a fait. En défense centrale, même si Skriniar, Danilo, ce n'était pas fameux, bah mine de rien, ça reste quand même une rotation et un banc de qualité que certains clubs ne peuvent pas avoir en Ligue 1 pour ne citer que le championnat. Donc finalement, à part le milieu de terrain, oui, on n'a pas forcément de 6 remplaçants, mais bon, trouver un 6, même Liverpool n'en a pas un. Le Real Madrid a mis du temps avant de pouvoir remplacer Casemiro, où en fait, tu as dû lancer Tchouaméni beaucoup plus vite que prévu. Donc c'est compliqué de parler de transition ou du fait que le banc n'est pas performant. Je pense qu'il faut juste laisser du temps à cette équipe de pouvoir prendre du temps et d'être un petit peu rodé pour pouvoir vraiment comprendre les besoins et les objectifs de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et surtout, moi, quand je vois le banc du Paris Saint-Germain, il faut revenir sur ce qui s'est passé la saison dernière où tu fais rentrer Ekitike à la place d'Mbappé, par exemple, et que le Roi Sané rentre à la place d'un Sadio Mané, quoi. Enfin, c'était quand même, tu avais envie de te mouiller la nuque et d'éteindre la télé. Là, aujourd'hui, tu peux faire rentrer un Vitinha à la place d'un Likanguin, c'est déjà pas mal. Tu peux faire rentrer un Marquinhos, par exemple, à la place d'un Danilo Pereira. Donc là, quand même, il y a un banc, ça a été étoffé. Il y a le mercato hivernal qui va arriver où tu pourras recruter un latéral gauche, un milieu de terrain. Donc il faut prendre du temps. Il ne faut pas être trop exigeant envers cette équipe-là. Et le principal, comme on a dit, c'est les 3 points.
Totalement. C'est vrai que c'est le genre de match qu'on aurait pu perdre justement l'an dernier. Pour répondre rapidement à cette question et enclencher sur la suite, je ne la posais pas innocemment parce que même si Brest n'a pas eu beaucoup d'occasions, je pense qu'on a un peu oublié aussi le fait qu'il y a 2 buts qu'on peut prendre de manière très très bête parce que Danilo et Donnarumma se foirent complètement dans la relance. Il y a Danilo dans l'axe qui veut faire une passe à Zaïre Emery, il est pris dans son dos et tu vois Danilo il est en mode « Oh pardon », comme si on était dimanche et qu'on jouait entre copains. Donnarumma aussi qui se rate sur la remise de Hakimi en Ligue des Champions, je suis désolé, c'est 2 buts qu'on prend. Donc oui, on a encore quelques manques quand même par rapport aux exigences de Luis Enrique, mais il faut rappeler aussi quand même que, comme l'a dit Soura, c'est nouveau. On ne peut pas faire Rome en un jour, tu ne peux pas changer 5 titulaires comme ça et t'attendre à ce que l'équipe elle soit complètement métamorphosée dans le bon sens du terme et que ça fonctionne. Mais du coup, je vous propose qu'on enchaîne sur le dernier grand titre avant qu'on parle des top et flop. Mon dernier grand titre, c'était justement, est-ce que ce n'est pas une victoire un petit peu amère du côté du Paris Saint-Germain? Et cette fois, on va inverser, c'est Soura qui va commencer, ce sera ensuite Rico et ensuite Lolo.
Un peu amer, ouais, je pense que ça reste quand même un petit peu amer, notamment en deuxième mi-temps où tu t'endors un peu et tu laisses Brest revenir à deux partout. Après, amer, pas forcément, parce que tu reviens de la Ligue des Champions, tu joues dans la pire horaire que l'Europe ait pu connaître, 13 heures, où tu dois te réveiller à 7-8 heures du matin, faire un déplacement, l'échauffement, donc ça aussi c'est un petit peu chiant, mais bon, quand même, il faut faire plaisir à la Chine, on n'a pas trop le choix pour ça. Mais amer après, tu affrontes quand même Brest, qui est une très belle équipe, où moi, je ne pensais pas qu'il ferait une telle saison, notamment la saison dernière où tu engages Eric Roy, qui n'avait pas entraîné, si je ne me trompe pas, depuis plus d'une dizaine d'années. Donc finalement, il arrive à reconstruire un très bel effectif. Au milieu de terrain, tu peux avoir Madi Camara, qui a fait un gros match. Donc victoire amère un petit peu, parce qu'on aurait vraiment pu mettre 4 ou 5 buts. Mais bon, quand un Etienne Bizot Neuer qui est en feu aujourd'hui, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais ouais, ça reste un petit peu amer, mais c'est pas si grave que ça, cette victoire.
C'était Bison, le pote de Caris ce soir, hein. C'était pas Bizot. Vas-y, Rico, je te laisse enchaîner.
Voilà, pour moi, il n'y a pas forcément à être amer. Je pense qu'un match comme ça, tu n'as pas forcément d'enseignement à tirer. C'est un scénario, voilà, c'est dimanche 13h, c'est Brest, c'est après la Ligue des Champions. Tu me parles d'un match avant la Ligue des Champions, je te dis oui. Un match après la Ligue des Champions, pour moi, je t'avoue, j'en tire pas grand-chose. Moi, je vois plus, comme j'ai dit tout à l'heure, le verre à moitié plein où je suis satisfait de l'état d'esprit parce que comme on l'a dit l'année dernière et même peut-être les années précédentes encore, on ne le gagne pas ce match, on fait match nul, voire on le perd et on coule totalement. Là, au final, on doit le gagner largement, on se met un peu dedans tout seul et au final, on arrive quand même à le gagner au mental. Comme je l'ai dit, ce genre de match, si tu n'as pas le mental, si tu n'as pas l'esprit d'équipe, tu ne le gagnes pas et au final, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a tous réclamé l'année dernière, c'est ce qu'on a tous réclamé au mercato d'été, et au final c'est ce qu'on voit quand même, une vraie équipe qui se dégage, une vraie mentalité, une vraie bonne mentalité, de mecs qui lâchent pas, de mecs qui jouent ensemble et qui ont envie de gagner ensemble. Donc oui, le match n'est pas parfait, oui, on se met dedans bêtement et j'étais le premier dégoûté parce que au final tu prends un but avant la mi-temps complètement bête alors que tu dois mener 3-4-0. Après, en face, comme l'a dit Soura, tu as quand même un grand gardien aujourd'hui, il a été vraiment stratosphérique, donc tu avais pas beaucoup d'ingrédients pour aller gagner ce match et au final tu le gagnes quand même. Voilà, après, si certains veulent tirer l'alarme pour un match face à Brest, là-bas, dans des conditions compliquées, après un match face au Milan, bah, grand bien vous fasse, mais personnellement, je préfère retirer le positif. Et pour moi, parce que tu en parlais tout à l'heure, tonton, tu faisais des 6-6-6 par rapport à 6 et en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que si on joue un match de Ligue des Champions, quand même, on n'a pas cette équipe-là, on ne joue pas de la même manière. Et du coup, avec des 6, voilà, on coupe du bois. Donc, perso, je reste quand même satisfait. C'est une victoire importante, c'est 3 points importants parce que Nice avait gagné. Et au final, j'ai vu une vraie équipe. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais au final, j'en ressors quand même assez content.
Lolo ?
Ouais, non, mais très, très, très content aussi. Pas victoire amère pour moi. Vraiment satisfait. Fallait que tu enchaînes. Faut pas que tu te fasses distancer par Monaco et par Nice. Monaco qui va jouer et Nice qui a gagné un petit peu plus avant. Donc voilà, là, tu vas avoir un enchaînement de quelques matchs qui vont être un petit peu plus abordables. Donc, il va falloir que tu sois un peu plus sérieux, que tu fasses aussi souffler un peu plus ton effectif. Comme je l'ai dit l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce match-là, c'était peut-être le match relance pour Brest. Et on aurait vu le Paris Saint-Germain qui se fait caca dessus et qui se fait manger par l'ogre brestois. Et là, non, pour moi, il faut être très content. On enchaîne une 3e victoire de suite d'affilée. On était sur 2 clean sheets sur les 2 derniers matchs. En Ligue des Champions et contre Strasbourg, là, malgré tout, tu gagnes avec un Mbappé qui continue à garder la confiance, parce que même si on a eu un très grand gardien de Brest, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose un petit peu et qu'on arrête de banaliser l'extraordinaire. Un match moyen d'Mbappé finit par 1 but, voire 2 buts à chaque fois. Et non, très content, très satisfait. Le plus important, c'était les 3 points. Et puis même la façon dont ça s'est passé. Tu sais, tu vas chercher ce but-là avec le 3-2, avec cette ambiance où tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que ça, c'est un peu un match de district que tu joues et que tu as tout le monde qui est contre toi le dimanche 15h ou dimanche 13h. Là, ça a été exactement la même chose. J'avais l'impression un peu de ressentir un peu, je sais pas si vous vous souvenez, une victoire contre Metz à la dernière minute avec un but de...
Ouais, Hakimi, je crois.
Ouais, c'est ça. Et que du coup, tu sais, on était dans un truc, il fallait qu'on aille chercher un résultat, etc. Et on s'en fichait, en fait, que ça soit de la manière où... Là, c'était la même chose. Là, tu as gagné contre Milan. Va gagner contre Brest. Prochain match, va gagner contre Montpellier à domicile pour pouvoir te mettre bien et mettre encore plus la pression au mec devant. Et puis, tout va bien se passer pour la suite.
Ouais, puis cette saison, Brest n'avait pas perdu. Hein. C'est leur première défaite à domicile. Hein. Et comme l'a dit Soura, Brest joue très très bien depuis le début de la saison. Même les matchs nuls et les défaites qu'ils ont pu avoir, c'était vraiment pas mérité. Donc pour le coup, il fallait gagner là-bas.
Hein. C'est ça.
Bah, justement, je vous propose maintenant qu'on passe à notre rubrique préférée avant qu'on entame les questions-réponses avec le chat. Et j'ai commencé par Lolo cette fois. C'est qui tes top et tes flops?
Top, je dirais Warren. Fabian et j'ai bien aimé Kangin Lee et flop je mettrais la défense centrale que je n'ai pas du tout aimé. J'ai du mal un petit peu parce que c'est un peu compliqué, mais la rentrée de Colo nous a fait du bien. Je reste déçu du match quand même de Gonzalo Ramos, même s'il aurait été dans la dépense d'énergie. Donc je dirais le numéro 9 en 2. Et en 3, ouais, non, j'ai pas de 3, mais je pourrais dire, ouais, déjà, rien que la défense centrale, donc Skriniar et Danilo. Et vas-y, on va dire nos numéros 9 en 3, puisque j'ai pas trouvé si impactant que ça. J'attendais que Gonzalo Ramos puisse débloquer son compteur, qu'il puisse être un peu plus tranquille, un peu plus libéré. Il n'a pas su le servir, il a été quelquefois utile, mais je l'ai trouvé un peu absent. Et Kolo Muani, bon, il nous gratte un pénalty qui nous fait du bien. Mais ça reste brouillon et je pense qu'il va falloir qu'on commence vraiment à se poser et qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec le numéro 9? Est-ce qu'on attend Asensio? Est-ce que... Enfin, bref, il y a plein de choses à voir.
Rico, c'est qui tes top et flop?
Top en 1, forcément Zaïre Emery. Franchement, incroyable. Le but qu'il met, il est magnifique. En plus, ce genre de frappe qui fait que de monter comme ça, qui finit lucarne, c'est fort. On a pu voir sa qualité de frappe depuis un petit moment, mais il n'avait pas forcément capitalisé dessus. Et là, il marque. Elle est vraiment belle. Ça récompense le début de match qui est très, très fort de son côté. Beaucoup de récupération, beaucoup de prise de balle vers l'avant, de percussion. Il a fait vraiment un gros, gros match. Donc, évidemment, gros top. Après, il y a Mbappé quand même parce que bah, il met 2 buts. Derrière, il y a quand même l'attitude à la fin. Il arrive à marquer ce pénalty en 2 temps, mais il le met. Au final, comme l'a dit Lolo, on ne peut pas banaliser non plus une perf d'Mbappé, même si dans le contenu, tout n'est pas parfait, même si des fois, il nous énerve parce qu'il ne défend pas ou quoi que ce soit. Mais il te met encore 2 buts. Donc, le mec te met un doublé. Chaque joueur qui met un doublé dans un match finit dans les tops. On ne peut pas se permettre de ne pas le mettre. Donc, je vais mettre Mbappé. Et puis derrière, petite hésitation entre Kanginli et Hakimi. Moi, j'ai trouvé bon. Je vois qu'il y en a dans le chat qui ne le mettent pas dedans, mais moi, je tape souvent dessus, hein, vous le savez. Mais Hakimi, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Je trouve qu'au milieu, il apporte beaucoup et tout. Mais je vais quand même mettre Kanginli parce que lui a fait un match très complet, je trouve, offensivement, très bon, très juste. Beaucoup de prises de risque. La passe qu'il met de l'extérieur du pied, comme le disait Lolo, c'est un peu ce qu'on demande à Vitinha et ce qu'on reproche à Vitinha. Mais cette vista qu'il a, elle est incroyable, ce pied gauche qu'il a. Il joue très souvent très juste et c'est ça que j'aime avec Kanginli, contrairement à Vitinha qui des fois joue un peu à contre-temps. Et puis défensivement aussi, beaucoup de récupération de balles, de pressing. Si on a pu les asphyxier comme ça en première mi-temps et pendant un bon bout de temps pendant ce match-là, c'est aussi parce que Kanginli et Barcola ont fait un gros travail défensif. Donc je vais mettre Kanginli en numéro 3. Et puis pour mes flops, je dirais Skriniar, Danilo évidemment. Et puis je pense que je vais mettre en troisième flop, peut-être Donnarumma, qui, je trouve, sur les ballons aériens qu'on a eus, avait peut-être mieux à faire, peut-être mieux anticiper, mieux sortir. Mais un gardien de cette envergure doit quand même se faire respecter un peu plus dans la surface. Après, on sait que dans les airs, il a aussi un certain point faible. Et il va falloir qu'il s'améliore quand même là-dessus parce que, bon, jeu au pied, plus les airs, plus les sorties, à un moment donné, ça peut faire beaucoup. Et sur ce match, je trouve qu'il aurait pu mieux faire quand même.
Soura.
Alors, juste, il y a Lille qui mène face à Monaco. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
Ah, toi aussi, tu check du coin de l'œil. Ouais.
Voilà, merci Instant Foot pour les infos. Et en top, je mettrais Lee Kang-in et Warren Zaïre-Emery, parce qu'ils ont encore été performants aujourd'hui. Et autre top, je vais mettre la réaction de Kylian Mbappé aux supporters de Brest. Voilà, Kylian, personne ne va te toucher aujourd'hui, parce que moi, j'en ai un petit peu marre. Quand c'est Cristiano Ronaldo, pardonnez-moi l'expression, mais qui va montrer ses baloches à Diego Simeone, toute la terre entière dit que voilà, ça, c'est le football, ça, c'est les émotions. Il met un triplé, ben voilà, Kylian Mbappé, il met un doublé, la clim, taisez-vous, personne ne parle, c'est nous, on gagne. Voilà, ça va encore créer une polémique sur le dos du Paris Saint-Germain. Donc, Kylian, continue, personne ne va te toucher, t'as mis un doublé, t'es le meilleur buteur du championnat, encore une fois, performant. Donc, rien à dire. Très, très belle réaction de Kylian Mbappé Lotin. Et donc, et en flop, je mettrais Danilo Skriniar et surtout le manque de centre pour Gonçalo Ramos. Parce que c'est un truc qui manque un petit peu dans cette équipe. T'as Kolo Muani, t'as Ramos, deux joueurs qui sont quand même assez grands. Donc, vraiment, il faut un peu plus appuyer sur ce point-là. Surtout que, franchement, voilà, Lee Kang-in et Mbappé dans ce volet de centre, c'est quand même des joueurs de très bonne qualité. Donc, il faut en profiter.
Bah, moi, de mon côté, dans les top et flops, je vais commencer par les flops, vous me connaissez. Je vais mettre Skriniar et Danilo parce qu'ils n'ont pas été au niveau aujourd'hui. Et en dernier flop, moi, je ne vais pas mettre un joueur, je vais mettre notre défense sur les coups de pied arrêtés. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai problème du Paris Saint-Germain. Ça va prendre le temps que ça prendra, je suis sûr que l'équipe est en train de le taffer à l'entraînement. Mais j'ai l'impression que, littéralement, quand une équipe a un coup de pied arrêté contre le Paris Saint-Germain, on est en danger. On est en danger et c'est super compliqué. Je ne sais pas si c'est lié à la position des joueurs, si c'est lié à l'animation défensive sur les coups de pied arrêtés, si c'est lié au temps de réaction des joueurs des fois, hein, parce que sur le deuxième but, je suis désolé, mais le joueur brestois, il marque au milieu de 5 Parisiens. Ce n'est pas normal. Donc là, je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu peux forcément amputer à Luis Enrique, parce que là, il n'est pas dans la défense et il ne peut pas faire les choses à la place des joueurs. Mais je pense que c'est quelque chose où il faut commencer à se poser des questions sur comment progresser justement défensivement là-dessus. D'accord, avec Soura Chakoura. Décidément, tu auras tous les surnoms Soura dans cette émission. Mais au niveau des tops, justement, pour être un petit peu plus positif, forcément, je vais mettre Warren Zaïre-Emery, joueur de 17 ans, qui est littéralement en train d'exploser pour sa première saison, réellement comme titulaire au Paris Saint-Germain. Il nous a montré ces derniers matchs qu'il savait faire des passes décisives. Il nous montre qu'il sait marquer, il nous montre qu'il sait récupérer. Il a un volume de jeu super intéressant. C'est littéralement le milieu qu'on n'arrive pas à recruter, mais qu'on forme. Et franchement, j'espère qu'on le gardera très très longtemps à ce poste. Et mes deux autres tops, je vais mettre Lee Kang-in aussi, parce que c'est sa première titularisation que j'estime réussie. Il avait une autre titularisation et ça avait été un petit peu plus compliqué. J'ai bien aimé son match avec le ballon, j'ai bien aimé son match sans le ballon, notamment la manière où il a intercalé avec Barcola. À un moment, les deux ont très bien communiqué, ils ont complètement changé de position. Et on voit Lee Kang-in apporter son soutien plusieurs fois à Lucas Hernandez. Et mon dernier top, j'ai envie de mettre Barcola. Parce que c'est un joueur, comme je l'avais dit dans une autre émission, que je trouve c'est un vrai joueur de collectif, c'est-à-dire qu'il pense aux autres avant de penser à lui, et ça se voit dans ses replis défensifs. Encore un match où Barcola fait un repli défensif où on croit que c'est un défenseur, j'ai cru que c'était Hakimi, mais non, c'est bien Barcola qui fait un sprint de 50 mètres pour mettre le coup d'épaule et empêcher le défenseur de revenir. On avait eu le même problème il y a 2-3 matchs contre Clermont, où c'était justement Barcola qui était revenu à la place de Marquinhos. J'aime beaucoup le joueur avec le ballon, je l'aime encore plus sans ballon. Donc je me dis que bah, ces profils de joueurs aussi jeunes, ça peut vraiment devenir des joueurs très intéressants à terme au PSG, mais il ne faut pas les griller trop vite, ni en demander trop pour le moment, et il faut vraiment prendre leur temps avec eux en tout cas.
Ouais, mais maintenant que... passage rapide.
Vas-y, vas-y Lolo.
Rapide, mais un gros message, un gros big up, j'espère, à la Ligue qui a bien entendu... dans les dernières minutes, les chants brestois homophobes, et j'espère qu'il y aura des polémiques. Je vais rester là aujourd'hui, demain, sur mon téléphone, à attendre un petit communiqué ou pas, pour juste savoir si c'est le Paris Saint-Germain ou si c'est autre chose, tu vois. Donc, en tout cas, on a tous entendu, moi j'ai entendu derrière ma télé, hein, la reprise du chant qu'on a pu faire contre les Marseillais et version parisien. Donc, j'espère que les politiques pourront être un petit peu plus tatillons par rapport à ça. C'était juste mon petit mot pour la vie.
Ouais, non, mais alors, par rapport à ça, c'est un peu dommage aussi par rapport à l'attitude des Brestois. Ils faisaient un bon match, il y avait de l'engagement, mais qui fait partie du football. Et je trouve qu'au bout d'un moment, dans les, on va dire, 10-15 dernières minutes, c'est vrai qu'ils sont sortis un peu du match. Il y a eu des tacles, il y a eu de l'engagement un peu trop dur. Et c'est un peu dommage, même le public aussi avec les chants. On sait que c'est chaud à Francis Lebet, on sait qu'il y a une bonne ambiance, mais ils ont terni un peu ça. Je trouve que Brest a sali un peu son match, que ce soit les supporters ou les joueurs. Et pour moi, la réponse d'Mbappé est naturelle. Et comme le disait Soura, c'est bien français que de critiquer Mbappé là-dessus. Mais quand c'est un autre joueur qui le fait, on dit tout de suite qu'il a le sang chaud et que c'est magnifique et que c'est les émotions, comme il a bien dit. Donc, c'est un peu dommage, même si je n'ai pas forcément d'affect pour Mbappé. Je ne lui en voudrais pas là-dessus, bien au contraire. Et aussi parce que j'ai vu dans le chat parler de Ruiz, de Ramos, etc. Là, c'est les top et flops. On peut en citer que trois. Mais je voulais juste parler de Gonçalo Ramos. Je ne l'ai pas mis dans mes flops parce qu'il y a le jeu avec ballon, il y a le jeu aussi sans ballon. Et je trouve qu'il a été quand même intéressant, des appels qui ont été intéressants, qui libèrent de l'espace aussi. Et même pour se dégager, j'ai vu des longs ballons où il pouvait les reprendre de la tête, de la poitrine, etc. Dos au but, il nous a fait du bien, il a permis de remonter quand même certains ballons. Donc oui, offensivement, ce serait bien qu'il marque, qu'il stat, etc. Mais il y a quand même le jeu aussi, le contenu, où je trouve que Ramos a quand même été assez intéressant, même si on lui demande un peu plus. Et puis c'est comme un Erling Haaland qu'on voit en demi-finale et en finale ne pas stater. Mais mine de rien, c'est un joueur important parce qu'il pèse et les défenses ne se comportent pas de la même manière quand tu as un attaquant comme ça en face de toi et ça libère des espaces qu'on ne voit pas forcément. Mais voilà, en tout cas, c'était juste un petit mot pour parler de Ramos.
Tu veux ajouter quelque chose aussi, Soura?
Ramos, ouais. Bah, de toute façon, c'est comme l'a dit Rekoba, c'est un peu comme Haaland. Le match en Super Coupe d'Europe face à Séville, où beaucoup avaient critiqué Haaland, mais Haaland, il n'était pas servi. Il n'avait aucun ballon. Et pour un attaquant de ce niveau-là et de ce calibre-là, qui est un peu un œuf des surfaces, qui n'est pas un joueur comme Karim Benzema, bah, si tu ne leur donnes pas les bons ballons, bah oui, tu ne les verras pas et ils vont être frustrés, il va y avoir beaucoup de frustration. Et après, de toute façon, Gonçalo Ramos, il fait déjà énormément d'efforts défensifs. Il sert aussi notamment dans ce rôle de pivot à délivrer de bons ballons, notamment la petite connexion avec Likanguin où il le sert bien son ballon pour pouvoir frapper et le tir qui est arrêté par Bissot. Donc non, je pense que ça va mettre du temps. De toute façon, comme ça a été dit, révélé par l'équipe, il n'est pas inquiet par ce manque de buts et de stats, mais je pense que ça va arriver tranquillement pour Gonçalo Ramos.
Mais je pense aussi que c'est sympa de remettre aussi les choses dans leur contexte et de ne pas trop tirer inutilement sur certains joueurs. Je veux dire, ni Ramos ni Kolo Muani n'ont jamais été l'option numéro 1 au poste de numéro 9 par Luis Enrique au PSG. La piste était Harry Kane. Alors bien entendu, il n'était pas réalisable, mais c'était lui que Luis Enrique voulait. Et Ramos et non seulement Ramos et Kolo Muani, lequel des deux a déjà joué dans une équipe qui joue le jeu de position avant d'arriver au PSG, s'il vous plaît? Aucun des deux. Ils n'ont pas fait la prépa avec le PSG. Alors moi, je veux bien que ces joueurs, ils écoutaient cher. Mais c'est pas de leur faute, c'est la faute du club qui est capable de mettre cette somme sur ces joueurs-là. C'est à nous de négocier mieux que ça. Par contre, je peux entendre qu'on ait des exigences envers eux, mais tu peux pas non plus leur demander qu'en 3 mois, ils s'adaptent totalement au jeu de position et que ça devienne des experts là-dedans. J'ai même envie de dire, la seule problématique en fait qu'on a avec ces joueurs-là, c'est que comme c'est des neufs, on leur demande de marquer. Et Haaland, contrairement à Ramos et Kolo Muani, même si l'an dernier, tu le regardais, tu avais l'impression que c'était une olive dans un cheeseburger à Manchester City, parce que ça avait rien à faire là, mais bon, c'était pas dégueu non plus. Bah, le mec il marquait énormément de buts. Je crois qu'il était au début, il était à 11 buts en 6 matchs quand il arrive à Manchester City. Et le problème, c'est que comme Gonçalo Ramos et Kolo Muani sont des neufs, enfin sont censés être les neufs de cette équipe, bah du coup, tu leur demandes de marquer. Sauf que c'est Kylian qui a ce rôle-là dans cette équipe. Donc du coup, je peux entendre qu'il y ait un peu, comment dire, parfois un peu mépris sur le profil de nos attaquants et ce qu'on leur demande. Mais c'est sûr qu'à un moment, il faudra se poser la question s'ils mettent du temps. Mais Fabien le souligne très bien, Rai a mis un an. Est-ce que ça l'a empêché de devenir quelqu'un de très intéressant et très important au PSG? Non. Mais voilà, après, si vous avez peut-être un dernier sujet que vous voulez qu'on aborde, les gars, avant de couper.
0 pour Lille.
Non, non, en vrai, c'est franchement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment le fait que c'est une victoire sur laquelle il faut capitaliser. Là où avant, il y a quelques saisons, on arrivait à perdre ce match et on n'était pas bien. Et on arrivait à relancer en fait ces autres équipes-là. Là, il faut prendre le temps. On est quand même en reconstruction. Il ne fallait pas perdre des points. Il faut continuer à en engranger. Donc, il ne faut pas après qu'on puisse partir directement dans des trucs de Mbappé, de ci, de ça, etc. Je pense que l'une des seules choses négatives qu'il faut vraiment parler et sur lesquelles on va rester assez attentif, c'est la défense. Mais au final, ça s'explique. Il y a des retours de blessures. Il y a un contexte à prendre en compte. Il y a une rotation aussi que tu dois faire avec ton effectif. Donc voilà, il faut rester positif pour cette équipe. Il y a des choses qui sont bien. Pour moi, je reste avec même un peu de recul, même sur le live qu'on est en train de faire, mais je regarde juste la première mi-temps et je me souviens des occasions. Enfin, le gardien, il fait des arrêts. Enfin, bref, il doit y avoir 3-4-0 facilement si c'est une autre équipe ou si c'est un autre gardien qui n'est pas forcément dans son jour. Donc, ça reste une victoire où il faut se dire, voilà, on a fait le job, on a gagné. Parfois, c'est moche, mais c'est beau et c'est intéressant et c'est le plus important.
Ouais, puis il y a des paliers aussi dans une saison. Enfin, il y a des matchs tests, des matchs importants, on va dire. Et ce genre de match, c'est des matchs importants, c'est des signaux positifs que tu envoies aux supporters, au groupe aussi, parce que quand tu ressors d'une victoire comme ça, tu rentres au vestiaire, tu es trempé, tu as le short, il est dégueulasse et tu as gagné ce match dans un contexte difficile. Donc, ça soude une équipe et c'est des tests importants. Face à Milan, c'était la même chose et on s'en est sorti avec un 3-0 alors qu'il y avait de la pression. Le premier match en Ligue des Champions, on le gagne aussi. Il y a eu des gros matchs aussi, même si Lens et Lyon n'étaient pas forcément prêts et qu'on a gagné. Donc voilà, il y a des tests importants dans une saison et ce genre de match, ça sert à fédérer un groupe, ça sert à ressortir plus grand et ça va te servir plus tard dans la saison.
Mais écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Pour les personnes qui étaient présentes dans le live, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces pour développer au mieux le live et la chaîne. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. Et pour ceux qui veulent voir un peu plus de contenu, Rekoba a sa chaîne YouTube, Lolo aussi, moi-même aussi également, vous cliquez sur nos blazes et je pense que vous nous trouverez facilement sur YouTube. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. N'oubliez pas, faites péter un maximum les pouces et les abonnements avant de partir. Merci à tous et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao.
Ciao, ciao.